Bonjour à tous, voici de nouveau au centre Dumitru Stăniloae. Je m'appelle Razvan Ionescu, je suis le responsable de la direction théologie et sciences dans le cadre du centre. Et donc, au niveau de licence 2, nous allons traiter cette année les sujets suivants. Notre programme est structuré sur 2 semestres, donc dans le premier semestre, aujourd'hui, nous allons faire une introduction générale et parler des rapports entre théologie et science dans l'Église primitive. Le 1er décembre, la deuxième séance concernera les rapports entre théologie et science toujours dans l'Église primitive. Le 5 janvier 2016, la séance numéro 3. Nous allons commencer à parler de la maturation des rapports entre théologie et science à la recherche d'un ordre méthodologique, d'une méthodologie à l'école d'Alexandrie et chez Origène. La séance numéro 4 sera le 2 février 2006. Nous allons toujours parler de la maturation des rapports entre théologie et science. Toujours de la recherche d'un ordre méthodologique, mais on va parler cette fois-ci de l'élaboration d'une méthodologie de dialogue chez les pères cappadociens. Et nous allons clôturer le premier semestre. Dans le deuxième semestre, nous allons parler de la maturation des rapports à la recherche d'un ordre méthodologique chez Maxime le Confesseur et chez Jean Damascène, théologie et sciences entre distinction des compétences et l'idéal de l'unité du savoir. La séance numéro 6, le mois d'avril, élaboration d'une vision ecclésiale des rapports entre théologie et sciences modernes, et on parle de Saint Grégoire Palamas et du sujet des énergies. La séance numéro 7, le mois de mai, on va parler de la théologie palamite et des lumières orthodoxes, j'utilise les guillemets. Et séance numéro 8, le mois de juin 2016, nous allons conclure après toutes les séances parcourues ensemble. Bien sûr que pour les étudiants qui sont inscrits d'une façon régulière au centre Dumitru Stăniloae, nous allons mettre à leur disposition un support de cours à demander à chaque professeur. Et les objectifs de cette année sont les suivants: d'identifier la compétence d'ordre gnoséologique spécifique à la théologie orthodoxe dans le contexte plus large des savoirs à des différentes époques. Et nous allons parcourir pas mal de temps dans l'histoire du christianisme. Et deuxièmement, identifier les rapports possibles entre la théologie et la science dans l'histoire de l'Église par une appréhension de la typologie et l'évolution des rapports, de la relation entre la théologie orthodoxe et la science. Je vous ai donné grosso modo le contenu du cours de cette année au niveau de licence 2, en vous invitant, en souhaitant que vous fassiez vos propres efforts, de consulter une bibliographie qui sera mise à votre disposition et de pouvoir approfondir vous-même la matière que nous allons parcourir ensemble. Je commence aujourd'hui par la première partie de notre cours, la première séance, une introduction générale et les rapports entre théologie et science dans l'Église primitive. Il est évident, et nous avons vu les années qui sont passées, combien cette relation théologie et science est complexe, combien de rapports on peut imaginer entre la vie ecclésiale et la culture, et l'expérience du monde qui rencontre l'expérience de l'Église. C'est pour cela que je vous rappelle que quand nous parlons de la relation entre théologie et science, nous n'imaginons pas uniquement une sorte de relation intellectuelle entre des discours différents, avec des compétences d'ordre gnosologique différentes, surtout pour le fait qu'au niveau discours, on risque de réduire, de contracter la réalité profonde de la foi à des questions et des notions purement intellectuelle, ce qui ne satisfait pas la quête de sens pour quelqu'un, de quelqu'un qui vit la vie de l'Église. Donc, nous proposons plutôt une rencontre entre la vie ecclésiale et les éléments qui viennent de la culture technique, scientifique ou autre spécifique à l'homme à n'importe quelle époque. Et pour chaque époque, nous allons détailler, nous allons voir les caractéristiques. Aujourd'hui, quand nous pensons à faire une introduction générale, on peut dire que le cours de cette année au niveau de licence 2, c'est tout simplement essayer de comprendre au fil du temps comment les relations entre la vie ecclésiale, la théologie de la vie ecclésiale et les différentes compétences techniques et scientifiques se sont manifestées en tant que relations entre les deux, de quelle façon on a pu voir interagir les connaissances strictement théologiques avec les connaissances scientifiques ou philosophiques ou autres, et de quelle façon surtout les pères de l'Église ont pu aborder ce sujet qui est extrêmement important pour nous, parce que nous devons tirer nos propres conséquences, nos propres éléments de sagesse, de discernement pour le monde d'aujourd'hui. Donc, pour dire tout cela, pour dire qu'en fait, cette année, on va se focaliser sur le parcours de la vie de l'Église en dialogue avec la culture des époques différentes et que nous allons essayer de tirer des conclusions qui synthétisent en quelque sorte ce qui s'est passé dans le temps, justement pour pouvoir tirer profit aujourd'hui. On peut dire d'abord que parler aujourd'hui de la relation entre la théologie orthodoxe et la science, sans faire appel à l'expérience ecclésiale de type apologétique acquise au cours des siècles, s'avérerait sans doute dommageable. Je le dis au vu de la richesse et de l'importance de cette dernière par rapport à notre thème de réflexion. Si on regarde les apologistes chrétiens du premier siècle, les pères de l'Église, qui commencent parmi ces apologistes et qui continuent tout au cours de l'histoire de l'Église, on peut dire que les apologistes et sur les traces des apologistes tous les autres pères de l'Église. Et c'est l'académicien roman Dumitru Popescu qui le dit, qui le exprime très clairement. Non seulement on réussit un dialogue nuancé avec les représentants de la culture profane, mais également ils ont posé les repères de base d'une méthodologie sélective encore efficiente pour la théologie d'aujourd'hui. C'est-à-dire le contexte historique où les chrétiens ont dû répondre aux accusations, aux menaces liées à des compréhensions erronées, voire tendancieuses du christianisme, et puis amorcer également le message évangélique sous une forme adéquate, compréhensible et à l'écart de toute déformation hérétique, inspirée par des doctrines étrangères à la vie ecclésiale, sont des attitudes qui ont pu et peuvent aussi également aujourd'hui produire dans l'Église des repères utiles pour le dialogue du christianisme avec la culture en général et avec les sciences en particulier. Donc l'expérience des apologistes, on peut dire à l'heure actuelle qu'elle est très importante, justement parce que c'est eux les premiers qui ont sorti en quelque sorte à l'extérieur de l'Église pour exprimer leur foi. À cause du fait également qu'ils se trouvaient en premier dans des positions vraiment difficiles, voire très dangereuses pour leur vie. Certains ou beaucoup d'entre eux ont payé avec leur vie leur témoignage. Et donc leur témoignage est très important parce que c'est un témoignage théologique par excellence. Et tout ce qui est théologique dans la vie de l'Église peut inspirer la vie chrétienne d'aujourd'hui. Et également, c'est un témoignage essentiel, en fait, pour la relation entre la théologie et les sciences, étant donné que c'est parfois, il s'agit parfois des philosophes, des anciens philosophes, ou des anciens scientifiques convertis au christianisme, ou tout simplement des théologiens qui ont suivi le cursus de l'enseignement de l'époque et qui ont pu véritablement, en connaissance de cause, donner les repères spirituels pour faire face à des enseignements qui venaient de la culture de leurs époques et d'entamer justement le dialogue entre la théologie et la science. Il faut préciser que la défense de la foi chrétienne contre les calomnies et les dénigrements des philosophes, le rejet de l'idolâtrie de polythéisme par l'affirmation de Dieu unique révélé par Jésus-Christ, la présentation de la foi chrétienne rendue accessible par une adaptation du message à travers le langage, la terminologie propre à chaque structure sociale, n'ont cependant jamais été considérées comme une démarche dépendant exclusivement des compétences humaines. Nous le disons d'une façon formelle aujourd'hui parce que nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il s'agit tout simplement de l'enseignement de l'Évangile dans des milieux qui étaient difficilement perméables au message évangélique et donc les apologistes ou ceux qui ont témoigné, les pères de l'Église, ceux qui ont témoigné dans des cultures différentes ont dû rencontrer les cultures et dire le message évangélique selon le langage que les gens utilisaient, je parle du langage conceptuel, idéatique, que les gens utilisaient à leur époque. Mais cette compétence ne peut pas être une compétence strictement humaine, dans le sens où on ne peut pas imaginer qu'uniquement une sorte de stratégie, de technique, de pouvoir gagner l'intérêt, une sorte de démarche, disons, médiatique pour pouvoir attirer l'attention sur des choses qui viennent de Dieu. Tout cela ne pouvait pas se faire en réalité uniquement selon les compétences humaines, parce que la source d'inspiration dans l'Église, c'est le Saint-Esprit, et la spiritualité n'est que, en réalité, la traduction plus ou moins appropriée du mot esprit et tout ce qui concerne l'esprit. Donc, c'est par l'Esprit Saint que les apologistes ont pu être inspirés pour pouvoir donner leur témoignage, mais en même temps, leur témoignage a utilisé toutes les compétences humaines afin qu'ils pouvaient servir à leur discours. Il est évident qu'on arrive à témoigner de cette façon parce que le Seigneur a demandé à ses disciples d'aller enseigner toutes les nations. La citation que je vous donne, c'est aux Actes des Apôtres 1:8. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien sûr qu'on se souvient du moment de la Pentecôte, qui est le moment où les apôtres, les disciples du Seigneur, reçoivent l'Esprit Saint, ils sortent à l'extérieur, c'est-à-dire ils ne restent plus cachés pour prier devant Dieu, mais ils sortent dans la société pour pouvoir témoigner avec beaucoup de courage le message évangélique. Donc les apologistes étaient donc conscients du fait que leur source ultime d'inspiration n'était pas issue de leurs aptitudes naturelles. C'est une question extrêmement importante aujourd'hui, parce que parfois on pense dans l'apologétique l'apologétique occidentale comme quoi il faut qu'on développe des compétences afin de pouvoir convaincre les autres. Il est évident que c'est Dieu lui-même qui convainc les gens et nous essayons tout simplement de nous mettre avec nos compétences à sa disposition pour qu'il face de nous des instruments, des vrais instruments. Mais ce n'est pas pour persuader les autres, pour les mettre dans un embarras idéologique que nous faisons tout cela. C'est tout simplement l'expérience personnelle du fait que nous nous trouvons dans la liberté personnelle et dans l'accomplissement de notre vie, devient un témoignage pour pouvoir sauver les autres, pour pouvoir aider les autres. Et c'est ça que les apologistes font. faisaient à leur époque, ils essayaient tout simplement de témoigner parmi ceux qui étaient toujours dans une quête d'accomplissement personnel à travers les voies de la philosophie, par exemple. Et comme eux, les philosophes chrétiens, ont pu bénéficier de la grâce de Dieu d'avoir pu trouver le chemin par excellence de leur vie qui était la nouvelle philosophie, la dernière philosophie possible, c'est-à-dire la voie chrétienne. Et, étant donné qu'il y avait cette expérience-là, les philosophes convertis au christianisme ont essayé à leur tour de mener cette bonne nouvelle aussi parmi leurs collègues philosophes. Donc, il est évident, pour revenir, qu'en fait, il n'y a pas de méthodologie dans le sens où par la méthode on arrive à avoir le succès. Ce n'est pas ni la méthode ni la stratégie, on ne parle pas d'une sorte de démarche d'avocat, parce que il est évident, par exemple, saint apôtre Paul au 1 Corinthiens 1, 20, il parle de la sagesse de Dieu, de la sagesse du monde. Et il est évident qu'il n'est pas spécialiste de la sagesse du monde. Donc, il fait confiance uniquement à la sagesse du Seigneur. Ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut faire. Luc 12, 11, 12. Donc, l'unique source de témoignage pour un chrétien, c'est Dieu. Mais Dieu travaille à travers tout ce que nous sommes. Et donc, il est évident que s'il y a des compétences humaines, le Seigneur va pouvoir travailler aussi à travers les compétences humaines. Mais la colonne vertébrale du témoignage reste l'inspiration de l'Esprit-Saint. On peut dire, dans ce contexte-là, que plutôt le chrétien se transforme non pas dans un avocat de Dieu, mais dans un témoin de Dieu. Il est évident qu'à l'heure actuelle, pour tirer profit de cette expérience qui a entamé, je répète, dans l'Église, le dialogue entre la théologie et les différentes disciplines scientifiques ou philosophiques, si on veut récupérer et comprendre comment se servir de cette richesse de vie et des écrits des apologistes, il est évident qu'il ne faut pas qu'on récupère les réponses des pères à la lettre. Ce qui est important, dit aussi le père Dumitris Popescu, c'est la méthode inspirée avec laquelle il abordait et résolvait les problèmes. Or, cette méthode n'est pas une méthode dans le sens scientifique du terme. C'est une façon de dire que l'inspiration de l'Esprit-Saint agit à travers les compétences différentes et qu'en se confiant à l'Esprit, tout devient possible malgré les difficultés de pénétrer dans des milieux différents. On parle d'abord du moment de la Pentecôte et on parle de la théologie de l'Esprit adressée à des personnes issues des cultures différentes. Pour ceux qui ont fait un peu la lecture du Nouveau Testament, il est évident que ce moment est un grand moment de l'Église. Certains se dépêche de dire même que c'est le moment, la configuration, la naissance de l'Église. Il y a un saint contemporain, saint Porphyre, qui ajoute quand même une idée qui élargit en quelque sorte notre perspective, c'est-à-dire il dit que l'Église, le Christ, bien sûr, l'Église commence avec l'existence de sa tête, qui est le Christ lui-même, c'est-à-dire dans l'éternité. Donc plutôt la naissance de l'Église et l'éternité, d'où vient Dieu. Mais en même temps, il est vrai en même temps que l'Église n'est pas composée uniquement par sa tête, mais aussi par ceux qui sont greffés sur lui et ils reçoivent la vie. Et donc à travers ce lien, cette façon de pouvoir se mettre, se connecter à la vie, les gens font partie ou deviennent membres de l'Église. Et ce travail a commencé d'une façon extraordinaire au moment de la Pentecôte, quand les gens venus de tout horizon étaient ensemble et que l'Esprit Saint est descendu sur la foule des apôtres d'abord. Ils ont reçu la grâce de pouvoir témoigner, la force d'en haut, j'utilise les guillemets, et comme ça, ils sont sortis pour témoigner leur foi et la bonne nouvelle. L'Écriture nous donne un témoignage qu'à l'époque, au moment de la Pentecôte, par l'économie de Dieu, se trouvaient des gens qui étaient venus un peu de partout. Toutes les nations qui sont sur le ciel. L'effet des apôtres 2.5. Des Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes. C'est les faits des apôtres 2, 9-12. Donc c'est des gens qui venaient de partout. On peut imaginer que ces moments étaient choisis par Dieu justement pour pouvoir donner la possibilité aux gens qui venaient de partout de pouvoir s'enflammer, s'allumer de la foi et partir dans le milieu d'origine justement pour témoigner. Il est évident aussi, par rapport au sujet de notre cours, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agissait de gens formés dans des cultures et dans des milieux différents, qui parlaient des langues différentes. Donc c'était plutôt un aspect cosmopolite de cette foule nombreuse qui a reçu la présence de l'Esprit Saint. Il y a des conversions tout de suite par la descente de l'Esprit Saint et les gens commence à se poser la question, qu'est-ce que nous allons faire à partir de maintenant, une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit ou le témoignage des apôtres. Donc on parle des conversions, on parle du cœur transpercé, fait des apôtres 2, 37, par l'Esprit, et donc ils vont partir dans leur culture d'origine, dans le milieu d'origine, pour parler de Jésus-Christ en tant que modèle absolu de l'homme et modèle absolu pour l'humanité. Quelle est la bonne nouvelle? Tout simplement le fait que le Christ, qui est le Fils de Dieu, est venu dans le monde pour sauver n'importe quelle personne qui veut avoir affaire avec lui, qui veut se repentir et qui veut le suivre. Donc, on peut dire que le Seigneur est la réponse absolue par rapport à toute culture. Ce n'est pas surtout les cultures qui nous intéressent, mais en réalité, ce qui nous intéresse, c'est la personne humaine, l'être humain qui, formé dans tel ou tel milieu, doit avoir accès aux idées et à la grâce qui témoigne de la résurrection. Et donc, l'enseignement théologique devait se faire pour tout le monde. Cette expérience de la Pentecôte peut se refaire, renouveler à chaque époque. Le Christ, toujours le même, peut être réellement rencontré tel qu'il est, à toute époque, dans toute culture, grâce à l'œuvre inspiratrice du Saint-Esprit, parce que c'est le même esprit qui traverse l'histoire de l'humanité. Donc ce qui s'est passé dans un moment historique traverse après l'histoire, et donc autant que qu'il y ait de moments de la Pentecôte renouvelés dans le christianisme et dans la vie de l'humanité, on peut espérer toujours que cette rencontre avec l'Esprit Saint soit salutaire pour les gens qui le découvrent. Et bien sûr, on peut dire que le renouvellement de la présence du Saint-Esprit dans le monde se fait par la divine liturgie, quand le Saint-Esprit descend justement sur les dons ici présenté, c'est-à-dire les dons liturgiques, eucharistiques, et sur les gens, les hommes, les personnes qui participent. Bien sûr qu'on peut tirer profit de ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte. Si nous lisons les témoignages, par exemple les Actes des Apôtres 2:46, jour après jour, d'un seul cœur, fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. C'est la conséquence de ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte. Mais ce moment de la Pentecôte n'est pas unique, c'est-à-dire il est unique historiquement parlant, parce que c'est un seul moment, le premier moment fondateur d'une présence de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église. Mais à partir de maintenant, à partir de ce moment, on peut dire qu'avec chaque liturgie, la descente du Saint-Esprit se répète en l'infini dans les cœurs de ceux qui participent. La chose est extrêmement importante par rapport au rapport entre théologie et science, parce que si nous essayons de comprendre quel est le mécanisme qui nous permet d'entamer un dialogue inspiré avec les différentes connaissances scientifiques du monde, on fait toujours confiance à l'Esprit Saint comme source d'inspiration, justement, pour pouvoir marier en quelque sorte les réalités spirituelles avec les réalités de ce monde. Donc l'événement de la Pentecôte nous paraît paradigmatique pour saisir le dialogue possible entre la théologie orthodoxe, la culture et la science. L'action de la grâce qui fait germer les réalités divines dans l'homme peut se faire à travers des mentalités, des approches culturelles différentes. On peut dire que la théologie, et c'est l'académicien roman Dumitru Popescu qui le dit, peut tirer parti de la culture pour mieux connaître les problèmes qui préoccupent l'homme à une époque déterminée. Et une sorte de radiographie de l'être humain, ses préoccupations le trahissent et nous disent qui est celui qui a ces préoccupations. D'où l'intérêt de pouvoir parler d'un dialogue entre les réalités de la foi et les réalités des préoccupations concrètes de chaque être humain à son époque. Bien sûr que l'action de la grâce traverse l'histoire. Les cultures et les mentalités changent. Donc, comment adapter, on se demande, le témoignage chrétien au contexte différent avec lequel ce témoignage doit entrer en dialogue. Il est évident que d'abord, il faut cultiver la liturgie et la vie liturgique. Parce que la vie liturgique, c'est la vie où on reçoit, comme je le disais tout à l'heure, d'une façon inspirée, la présence du Saint-Esprit. Et vivant, goûtant, se rendant compte de cette présence de l'Esprit-Saint, on peut bien sûr imaginer après des façons différentes de pouvoir dialoguer d'une façon inspirée avec les éléments de connaissance de chaque époque. On parle d'un dialogue théologie-culture dans lequel les deux sont partenaires, donc il n'y a pas de confusion de compétences, sans mélange ni séparation. Et ce dialogue exige un effort de redéfinition ou d'interprétation théologique de la culture, car tout ce qui peut lui donner de la consistance en tant que fruit de l'esprit et de la sensibilité humaine ne provient pas de la rationalité humaine seule, capable du bien comme du mal, de l'ambivalence de la culture, mais de la rationalité divine humaine sur laquelle est bâtie la théologie, dit le père Dumitru Popescu. Donc, le dialogue, je répète, le dialogue théologie-culture exige un effort de redéfinition, d'interprétation théologique de la culture. Donc, quand on interprète la culture, c'est tout simplement, on introduit dans la culture humaine, qui est neutre, disons, par rapport neutre ou contre ou pour la culture de Dieu, on introduit cette dimension de, disons, conscience chrétienne qui ou dans, est dans la lumière de cette conscience chrétienne, on voit les éléments de la culture habituelle dans leur contenu et dans leur intérêt qui va pour ou contre une échelle des valeurs chrétiennes. Et donc, il y a un effort de discernement, du choix, afin de pouvoir identifier dans le monde qui nous entoure les éléments qui peuvent contribuer à notre vie chrétienne. C'est ce qu'ils ont essayé, ce qu'ils ont fait les apologistes et les premiers chrétiens quand ils ont dû porter la foi, la bonne nouvelle auprès des gens qui ne connaissaient pas du tout le milieu de l'Église, disons, naissante et qui, ou de l'Église qui commençait à vivre son rythme dans le monde. Et donc, on devait acquérir une expérience du dialogue, de la rencontre. Pour comprendre cette expérience, on peut identifier dans la vie de l'Église plusieurs éléments qui nous parlent de cette expérience primitive. Par exemple, le témoignage de saint apôtre Paul à l'Areopage. L'Areopage, à son époque, il est évident qu'il était un contexte multiculturel, multireligieux. Je parle de l'Areopage athénien du 1er siècle. On peut dire qu'il était un supermarché, oui, des religions et des cultures, où l'on devait faire son choix à travers le jeu de la concurrence, de l'intérêt personnel, en ce qui concerne les cultures, les différentes doctrines philosophiques ou autres. Donc c'était l'endroit où les gens qui étaient attirés par la connaissance, dans différentes branches de la connaissance, où eux, entre eux, ils échangeaient leurs repères et discutaient avec ceux qui avaient quelque chose de neuf à leur dire. Comment, dans ce contexte, parler, et on pose cette question pour saint apôtre Paul, on imagine qu'il s'est demandé comment parler aux gens qui s'exprimaient dans l'Aréopage athénien, qui était le, disons, de la haute culture où se trouvaient les plus notables de doctrines philosophiques et des religions à Athènes. On peut dire qu'Athènes, à cette époque-là, était une ville où on vénérait énormément Dieu. C'était une ville plongée, on peut dire, dans des vénérations différentes parce que, étant donné que le syncrétisme régnait à cette époque-là, on essayait de mettre ensemble, dans un effort de tolérance, on peut dire, d'ordre religieux, philosophique, toutes les doctrines. Il y a quelqu'un, un protestant, Hardcastle, qui, dans la confrontation apostolique, dit la chose suivante, en essayant de comprendre ce contexte. L'esprit de Paul était attristé. Et cette tristesse envahit son cœur quand il vit la ville complètement envoûtée par l'idolâtrie. Et si nous avons le point de départ d'un événement apostolique, ce qui est apostolique vient éminemment de l'esprit. Cela commence dans l'esprit, s'est conduit dans l'esprit et s'est exécuté dans la puissance de l'esprit, mais cela s'accomplit à travers un homme qui voit et qui s'afflige. Donc, L'aréopage, découvert par saint apôtre Paul, était le haut lieu de débat public à Athènes, chargé d'une histoire qui se perdait dans la nuit de temps. Les Athéniens, les étrangers qui rédisaient parmi eux, n'avaient d'autre passe-temps que de dire ou d'écouter les dernières nouveautés. On trouve dans les Actes des Apôtres 17-21, c'est-à-dire en termes de philosophie de la religion. Donc il entre dans l'aréopage, invité bien sûr par certains sages de l'époque, et il était fort conscient du fait que la sagesse, ou il devient encore plus conscient du fait que la sagesse de Dieu est vraiment différente de la sagesse du monde. Si on regarde certaines situations du Nouveau Testament, « Je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Où est-il le sage? Où est-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ?» 1 Corinthiens 1,19-20. C'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Les Actes des Apôtres 1,21. Donc, saint apôtre Paul se trouve devant la lourde mission d'essayer à convaincre des gens de la présence de Dieu, de la bonne nouvelle qui vient à travers le Seigneur, dans un contexte où on peut dire qu'ils étaient rassemblés les chefs, on peut dire, ceux qui conduisaient les écoles des différentes doctrines philosophiques. Il y a une idée extrêmement importante, que ce dialogue quand même était possible. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît parfois aux chrétiens des qualités propres aux véritables philosophes. Par exemple, Galien suggérait une continuité possible entre la philosophie païenne et le christianisme, l'idée que le christianisme au moins n'est pas forcément extérieur à certaines valeurs de la philosophie. Je cite Galien, « La majorité des gens ne peut suivre une démonstration avec une attention soutenue. Voilà pourquoi ils ont besoin des paraboles. Ainsi, notre époque a vu ces gens, appelés chrétiens, tirer leurs croyances de paraboles. Il leur arrive de se conduire comme les véritables philosophes. Nous avons vu, sous nos yeux, leur mépris de la mort. De même, il existe une discipline de l'âme, une application rigoureuse de la morale dans laquelle ils sont suffisamment avancés pour n'avoir rien envié aux véritables philosophes. » C'est extraordinaire. Donc, c'est un philosophe qui regarde de l'extérieur les chrétiens. Qu'est-ce que saint apôtre Paul fait dans ce contexte-là? Il fait appel à l'Épiménide de Crète, qui a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ, et au Aratus de Solès, en Cilicie, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et il dit la chose suivante. Je ne trouve pas la citation tout de suite, je vais vous la donner. Tout simplement, le saint apôtre Paul parle d'un Dieu accepté par ceux qui étaient dans cette ville. Et donc, voilà, j'ai trouvé. « À tous égards, vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. Ce que vous adorez sans le connaître, je viens moi vous l'annoncer. Nous sommes de la race de Dieu. » Donc il fait appel au Dieu inconnu que les Grecs vénèrent. C'est tout simplement, on sait bien, à cette époque, il y avait un autel dédiée à Dieu ou au Dieu inconnu. Et donc, cet apôtre Paul se sert soit des deux citations des deux philosophes que je viens de nommer, soit il fait référence à cet autel-là qui montre que dans la maison, en quelque sorte dans la maison des Grecs, à leur époque, ils vénéraient quelqu'un qui ils acceptent qu'ils ne connaissent pas et que lui, il est capable à leur dévoiler. C'est une façon, diront, apologétique de pouvoir dire que ceux qui connaissent mais ils ne connaissent pas encore, il faut qu'ils l'approfondissent et bien sûr que cet apôtre Paul s'offre à justement leur dévoiler, de dévoiler l'identité de ce Dieu qu'ils vénéraient sans pouvoir le connaître. Il y a certains qui considèrent que cet apôtre Paul n'est qu'une sorte de Socrate qui n'était pas bien compris à son époque. Mais en même temps, Socrate fait référence à une intelligence et à une sagesse humaine, et à mon avis, on est très loin de pouvoir parler de quelqu'un qui n'est pas compris selon cette sagesse humaine, justement parce que la sagesse dont cet apôtre Paul fait référence n'est pas la sagesse humaine, mais la sagesse de Dieu. Il est évident que les Areopagites n'étaient pas habitués avec ce genre de discours spirituel. C'est-à-dire, même si les philosophies, les religions se mélangeaient, les différentes doctrines permettaient d'avoir des introductions de la philosophie dans la doctrine d'ordre religieux et à l'inverse, on peut dire que cet apôtre Paul vient et présente les choses en partant du registre des connaissances acquises déjà par les Grecs, mais il change de registre parce qu'il parle des choses spirituelles. Et qui peut recevoir véritablement des choses spirituelles? Et donc cet apôtre Paul parle non pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Donc, il est évident qu'on arrive à voir la difficulté de pouvoir parler à des gens qui ne sont pas habitués avec ce genre de discours. Mais en même temps, c'est l'inspiration de Dieu qui fait que ce discours arrive à l'Aréopage justement pour pouvoir percer en quelque sorte les fouilles de l'intelligence humaine par une sagesse qui vient d'en haut. Donc, il y a un problème qui est extrêmement important de la rencontre entre les compétences humaines et les compétences inspirées par Dieu, les charismes spirituels. Et donc, si certains parlent de l'échec de cet apôtre Paul parce que il n'y a pas une foule nombreuse qui l'a suivi à cette époque-là, même si apparemment il y avait au moins quelques conversions, en réalité, on se rend compte que recevoir le discours spirituel ne suppose pas uniquement une attention, une préparation selon les compétences humaines, mais une disposition de l'âme de pouvoir changer à tout prix. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'esprit de Dieu. Fait des apôtres. Actes des apôtres 2, 14. La découverte de Dieu, on comprend qu'elle provoque une sorte de crucifixion de l'intelligence, de l'exercice habituel de l'intelligence humaine, justement par ce genre de transformation de l'intelligence appelée métanoïa, métanous, retournement de l'intelligence, le renouveau de l'intelligence pour pouvoir acquérir la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, 16. C'est-à-dire, il y a une sorte de suspension de l'exercice habituel de l'intelligence humaine justement pour pouvoir acquérir et accueillir également des réalités qui sont au-delà de l'intelligence. Et bien sûr, ceux qui veulent utiliser uniquement leur intelligence pour pouvoir rencontrer Dieu, ils sont dans l'embarras, dans la difficulté de pouvoir faire quoi que ce soit spirituellement, parce que la spiritualité telle dont on témoigne les évangiles, c'est une spiritualité qui nécessite cette présence de Dieu agissant dans l'être humain, ouvert dans son cœur à cette présence. La sagesse donnée par l'Esprit demeure un mystère impossible à annoncer avec le prestige de la parole de la sagesse. 1 Corinthiens 2, 1. Car il n'accepte rien des discours persuasifs de la sagesse. 1 Corinthiens 2, 4. Dans lesquels on imagine que les Areopagites excellaient à l'époque. Au contraire, même si c'est bien de sagesse que Saint Paul devait parler aux Grecs, car les Grecs sont en quête de sagesse, 1 Corinthiens 1, 22, cette sagesse nouvelle ne pouvait toucher uniquement que ceux qui, en toute honnêteté, avaient rendu leur cœur compatible avec les exigences propres à la réception du Saint-Esprit. Pour finir le cours d'aujourd'hui, on peut dire que dans la période de l'Église primitive, dans cette période premier siècle de l'Église, et dans la période immédiate après tous les événements salutaires de la passion du Seigneur et de sa résurrection, on se rend compte qu'en fait, on parle dans cette période d'une expérience extrêmement importante pour la vie de l'Église. C'est une expérience qui témoigne du fait que l'Église a fait des efforts à pouvoir rencontrer tous les milieux, toutes les personnes humaines pour pouvoir leur passer le message, leur transmettre le message de la foi et donc leur ouvrir les portes du salut. Et dans cette expérience, on peut tirer aussi de cette expérience certaines conclusions par rapport aux premières rencontres entre l'expression théologique de réalité de la foi et les différentes façons inspirées par les philosophies, les cultures et les sciences de l'époque de pouvoir comprendre le monde, comprendre la vie de l'être humain, comprendre la réalité. Je vous remercie de votre attention, je vous donne rendez-vous au prochain cours qui concernera toujours les rapports entre la théologie et la science dans l'Église primitive, mais on va parler de l'apologétique, on va approfondir l'apologétique et les apologistes du premier siècle, et on va parler d'une typologie qui est une analyse des rapports possibles entre la culture philosophique et scientifique de l'époque avec la théologie. Je vous remercie de votre attention. Donc, prochain rendez-vous, prochain cours, le mois qui vient, le mois de décembre.